pour démarrer, je voudrais dire que je suis très intéressée par la découverte de ces séquences. Je suis extrêmement admirative de la somme de travail que ça représente. C'est énorme, il y a une somme de documents phénoménales, de tous ordres, hein, de voilà, vidéos, films, télé, articles de presse, textes littéraires, essais. Et je me dis, purée, ces élèves, ils doivent mettre tout ça dans leur tête, plus ou moins, bien sûr, hein, on sait bien qu'il y a toujours un filtre, etc. Mais je trouve que, voilà, je suis vraiment très admirative de ça, de cette somme d'inventivité, de recherche documentaire, tout ça articulé pour nourrir les élèves d'informations sur les sujets qui sont en débat dans ces différentes séquences. Je n'ai pas parlé tellement de la constitution documentaire de la séquence. Hein. Je vais la dérouler relativement vite en m'attachant plutôt à ce qui est écriture. Donc voilà, ça c'est le titre de la séquence. Puis ça débouche sur un devoir délibératif. Je reprends la définition de la personne qui a réalisé cette séquence, hein, qui me paraît intéressante. Hein. On n'attend pas une mauvaise réponse, mais une réflexion, un discours fondé en raison sur un problème de société. L'expression d'une prise de position, d'un choix personnel, défense cohérente de ce point de vue, sans passer sous silence le point de vue d'autrui. Hein, la dernière formule, la défense cohérente, etc., c'est une définition que je ferai mienne volontiers. Hein, c'est-à-dire, il faut effectivement, l'objectif, c'est que le texte aboutisse à l'énoncé d'une position qui est auparavant argumentée par la prise en compte de différents points de vue, ce qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Alors ça, c'est une définition qui apparaît au début de la séquence, et puis il y en a une autre qui apparaît un peu plus loin, et qui me paraît assez différente, et voilà. Surtout le petit 1. Ce n'est pas un écrit argumentatif, puisque le discours est centré sur l'énonciateur qui justifie sa prise de position, et non sur le destinataire que l'on veut convaincre dans l'argumentation. Il s'agit de montrer qu'on sait raisonner, etc. Bon, ça va. Mais c'est le petit 1 qui me pose problème. Cette différence entre un discours qui serait exclusivement centré sur l'énonciateur et pas sur le destinataire me paraît à interroger. Hein, parce que tout texte argumentatif, même si ce n'est pas explicite, il a une visée sur un destinataire. Je dirais même d'une manière générale, tout texte a forcément un destinataire. Voilà, cette petite 1 là me paraît un peu bizarre, pas cohérent avec ce qui était dit juste avant. C'est ces deux définitions qui ne paraissent pas articulées l'une à l'autre. Personnellement, je préfère celle-là, qui me paraît effectivement plus claire, plus nette. Construire son choix personnel en prenant en compte d'autres points de vue, mais en les dépassant en quelque sorte, pour construire son choix. Alors, je me suis intéressée à la place des écrits dans la séquence. La séquence est divisée en, je ne sais plus, 6-7 séances différentes. Et quand les écrits arrivent-ils? Comment ils sont articulés? Est-ce qu'il se passe dans chacune des séances? Ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant à analyser. Alors là, en l'occurrence, je ne travaille que sur une seule séquence, donc je ne peux pas faire de comparaison, hein, mais celle-là. Il y a donc quelque chose qui me paraît intéressant, c'est une écriture initiale. Avant toute chose, on demande aux élèves de formuler par écrit leur position personnelle sur cet usage de la parole individuelle anonyme à la télévision, comme si c'était une sorte de recueil de représentation préalable, comme on ferait en science en quelque sorte, hein, recueil de représentation. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de séances qui se succèdent, et avec des écrits, hein, qui sont à chaque fois accrochés et qui apparaissent généralement à la fin de chacune des séances. En première séance, on travaille sur la télé-réalité, donc des comparaisons d'émissions captées sur M6 ou autres, qui se terminent sur production d'écrits, seriez-vous prêt ou non à participer à une telle émission? Bon. Et puis, sur le site, c'est affiché un certain nombre de réponses d'élèves qui sont très binaires, quoi. Oui, ça m'intéresserait, non, ça ne m'intéresserait pas. Bref, voilà. Et ainsi de suite. Donc, la deuxième séance, c'est le visionnage d'un film. Qui se termine par de nouveau une question qui va donner matière à écriture. Et puis sur les autres séances de lecture, même chose, il y a aussi des pratiques de lecture un peu plus diversifiées, soit des prises de notes, soit des comptes rendus de travaux de groupe, des choses comme ça. Mais on voit bien qu'il y a un souci d'articuler à chaque fois une séance d'observation de documents, de discussion en classe et une production d'écrit qui fixe un petit peu les choses. Bon, là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup aussi d'interroger les tâches d'écriture. Hein, les tâches d'écriture et leur apparition dans la séance. Et là, massivement, c'est toujours à la fin. Hein, on écrit, ou alors en cours de travail, quand il s'agit des notes pour rendre compte d'un travail de groupe, mais c'est souvent, voilà, l'écrit est à la fin, ce qui est très classique, ma foi, dans l'organisation des relations entre lecture et écriture en classe, hein, mais qui peut s'interroger, du coup. Alors, ensuite, voilà, j'arrive au devoir terminal, qui donc le sujet de celui-là, les émissions de télé-réalité manipulent-elles la parole des anonymes ? Et il y a proposition de deux outils. Alors, ce tableau que les élèves doivent compléter, donc tableau en deux colonnes, les émissions de télé-réalité manipulent la parole des anonymes, ou bien les émissions font entendre la parole des anonymes. D'accord ? Deux colonnes. Et puis les élèves sont censés remplir les deux colonnes à l'aide de toutes les informations qu'ils ont extraites, des visionnements de séances de télé, du visionnement du film, de la lecture des articles de journaux, de la lecture de quelques ouvrages littéraires qui parlent de ces phénomènes-là, etc. Donc, un tableau à double entrée, ils remplissent, en gros, voilà. Ça manipule ou au contraire ça manipule pas, ça donne parole aux anonymes. Donc ça c'est un outil, je dirais un peu de synthèse de tout ce qui a été fait auparavant, voilà, qui récapitule les arguments, les exemples et tout ça. Et puis il y a un plan de devoir qui est proposé pour que les élèves fassent leur texte. Ce plan, le voici, donc je suis partiellement d'accord avec la thèse affirmant que les médias jouent avec la parole des anonymes. Des médias manipulent la parole des anonymes, cependant les médias donnant entendre la parole des anonymes. Les médias sont très divers et il appartient à chaque citoyen de s'interroger sur la manière dont ils usent de la parole des anonymes. Alors ce plan m'a beaucoup fait réfléchir, et c'est un peu là-dessus que je vais faire une sorte de proposition alternative de guidage dans l'écriture des élèves, si vous voulez. Je vais d'abord vous dire pourquoi ça m'a fait réfléchir. Pour moi, ça n'est pas un plan délibératif. Ce n'est pas un plan délibératif parce qu'il n'y a pas de prise de position. Il n'y a pas de prise de position sur la question qui est posée, à savoir est-ce que ça manipule ou est-ce que ça ne manipule pas. Ce type de question-là présuppose qu'on dise oui, ça manipule ou non, ça ne manipule pas. De manière un peu binaire comme ça, mais une prise de position construite. Voilà. Or là. Oui, oui. Ils doivent rentrer dans ce plan-là. Oui. On peut discuter, le fait de donner un plan préétabli, mais là, j'accepte la proposition de l'enseignant, d'accord ? Je rentre dedans et j'essaie de comprendre sa logique et de voir comment on pourrait peut-être la modifier pour la rendre peut-être plus efficace en termes de construction d'une délibération. Alors, je trouve qu'effectivement, ça ne permet pas aux élèves de répondre à la question posée. Ça la déplace. Sur une position, vous savez, la traditionnelle position médiane, ni oui ni non. À la réponse de Normand en disant, bon, tout ça, finalement, c'est pas mon truc, c'est aux citoyens de juger, et moi, je me débarrasse du problème, et hop, je laisse aux autres le soin de le juger. Voilà. Or, je trouve que c'est vraiment dommage. Ça prive de contenu l'activité même de construction d'une position qui assume une réponse en oui ou une réponse en non. Parce que je pense que c'est un peu ça l'enjeu de la délibération. Ça déplace, les médias sont très divers. Et puis par rapport à cette question de la manipulation, allez-y, décidez vous-même. Je trouve que le scripteur n'est pas engagé à prendre position dans ce type de plan. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, il y a ça. Il y a le « je suis partiellement d'accord ». Bon, pourquoi pas, en termes d'ouverture d'un texte, pourquoi pas, ça laisse ouvert les choses en disant « il y a... » Sous-entendu, il y a des avis différents et je peux partager d'un certain point de vue cette thèse-là, affirmant que les médias jouent avec la parole des anonymes, mais en même temps, j'ai peut-être un autre avis. Bon, mais c'est la conclusion qui me gêne. La conclusion, pour moi, n'est pas une conclusion argumentative. Oui. La conclusion évacue la question de l'argumentation.
De la prise de position.
De ce qui est affiché au point de départ comme étant la construction raisonnée d'une position, eh bien, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, je trouve, personnellement. Donc, en gros, on a l'introduction, une première partie sur la manipulation, une deuxième partie contraire sur la non-manipulation, et puis une conclusion qui dit « Ah ben, ni oui ni non, ni oui ni non, surtout, je ne mouille pas, je ne prends pas parti. » La délibération, c'est très précisément construire une position. Voilà. Moi, j'ai un exemple, fétiche de texte délibératif. C'est Milou et le sceptre d'autocar. Milou se trouve sur un chemin. Il a été chercher le sceptre d'autocar qu'il doit ramener, je ne sais plus trop qui. Que Tintin a laissé tomber. Voilà. Et en chemin, il tombe sur un os, un magnifique os. Et il ne peut pas prendre les deux, il ne peut pas prendre l'os et le sceptre, il doit choisir. Il doit choisir, se faire, voilà. Donc il y a l'ange qui dit, tu prends le sceptre et tu laisses l'os. Et puis le démon dit, oh l'os, qu'est-ce qu'il est bon. Puis finalement, les loups prennent le sceptre et puis, voilà, abandonnent l'os. Pour moi, c'est typique, c'est ça la délibération. C'est ça. Évidemment, dans Milou, on n'a pas les arguments, on n'a pas le pour et le contre, on ne sait pas qu'est-ce qui emporte. Mais pour moi, c'est ça, c'est vraiment, il faut assumer une décision. Et comme tu dis, en conseil citoyen, c'est clair. Les textes qui sont affichés sur le site sont des textes qui sont alors plus complexes que ceux qui sont issus des premières séquences. On voit bien qu'il y a eu une familiarisation des élèves avec ce type d'écriture, etc. Mais les textes qui sont affichés sont des textes où, effectivement, vous avez première partie, oui, ça manipule. Deuxième partie, non, ça manipule pas. Et ça s'arrête là. Et ça, c'est pour moi, c'est terrible.
Il n'y a pas deux, trois, non.
Forcément. Pensez au tableau aux deux colonnes. Je mets en texte la première colonne, oui, et je mets en texte la deuxième colonne, non. Et puis je pense que j'ai fait mon travail, je m'arrête là. Et donc, par ailleurs, bon. Donc du coup, on n'a pas de texte délibératif du tout. On a des textes en pour-contre, classiques.
Oui, et moi, je pense que voilà. Dans ce que j'ai étudié en classe, j'ai vu qu'il y en a qui pensaient que, j'ai vu aussi d'autres penser, et moi, de ce fait-là, moi, maintenant, je pense.
Voilà. Ce serait ça.
C'est ça
l'idéal à atteindre.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a cette structure en tête, mais on nous a fortement recommandé de ne pas modéliser pour qu'on ne retrouve pas systématiquement cette structure. Certains pensent que, d'autres pensent que, moi, je pense que. Du coup, chacun cherche des variantes dans la formulation et on arrive à parfois converger.
Oui. Et pourquoi on vous a pas conseillé de prendre cette structure?
On vous a dit que ça allait formater finalement le raisonnement des élèves et que ça risquait de nuire à leur expression, leur réflexion. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, c'était trop cadré.
Trop rigide.
Mais à un moment, il faut bien...
Oui. Je veux dire, ou on cadre ou on ne cadre pas, pour moi. D'accord. Si on cadre, autant cadrer de manière efficace.
Correctement.
Là-dessus, parce que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup occupé dans le temps quand je travaillais sur l'argumentation et sur l'élaboration de consignes d'écriture argumentative, y compris pour des très jeunes élèves, genre fin d'école primaire et des choses comme ça, quoi. Mais avec cette idée d'amener à produire une position argumentative qui tienne compte des avis contraires, quoi, quelque chose. J'ai réfléchi un petit peu, parce qu'on pourrait imaginer. Donc, je me dis, si j'avais des élèves de terminale, je ne pourrais pas leur imposer de prendre une position. Je serais donc plutôt dans la perspective de leur imposer, de leur proposer deux conclusions différentes. D'écrire dans le cadre d'une première conclusion ou dans le cadre d'une deuxième conclusion. Sachant que pour moi, ce qui est le plus important dans l'argumentation, c'est la conclusion, justement, à laquelle on va arriver, qui doit être... clair, nourri, argumenté, mais c'est la conclusion qui est première, à partir de laquelle tout le reste peut se construire. Donc, je vous présente deux plans possibles que j'ai construites en fonction de deux conclusions différentes. Première solution, je pars d'une question qui est d'introduction, les médias. Alors oui, il y avait ça aussi qui me gênait dans le plan précédent, c'est qu'on passait directement de télé-réalité à médias. Alors que la séquence est vraiment construite sur les émissions de télé-réalité, les médias, c'est quand même beaucoup plus large. Là, je trouve qu'il y a un glissement qui est un petit peu gênant. Donc, introduction, où je pose, voilà, ça utilise la parole des anonymes. Que peut-on penser de ce phénomène? Est-ce de la manipulation? Position A. Ou une occasion pour des anonymes d'accéder à une parole publique? Position B. Ça, ce serait l'introduction qui... ouvre en gros le choix délibératif. Est-ce que je suis du côté de A, est-ce que je suis du côté de B? Et puis, la conclusion tout de suite, pour vous, pour dire que ce que je vais choisir, c'est d'appuyer la conclusion B, dans une conclusion qui serait, c'est donc pourquoi je suis d'accord pour penser que ces émissions sont une occasion pour des prises de parole qu'on n'entendrait pas autrement. Donc, position B, c'est ça que je vais défendre, c'est ça que je vais construire. Et par rapport, pour arriver à ça, donc, et dans le temps, quand on travaillait l'argumentation avec Dominique Brassard, on appelait ça des exercices de type alpha-oméga. On a l'alpha, on a l'oméga. Et la question, c'est de trouver un trajet pour passer de l'alpha à l'oméga. on peut avoir de multiples trajets. Là, ce que je propose, c'est vraiment quelque chose de très qui pourrait se modifier. Hein, voilà. Donc il y aurait un premier temps où on va discuter, étayer, exemplifier, argumenter la position A, à savoir que les émissions de télé-réalité manipulent la parole des gens. Et là, on utilise tout ce qu'on a construit dans le corpus, les séquences, etc. On développe la position qui n'est pas celle qu'on va soutenir en conclusion. D'accord ? C'est la position des autres. En gros, hein, on pourrait dire, il y a des gens qui pensent que. Hein, mais on pourrait aussi dire, c'est un fait, c'était avéré, il y a des scientifiques qui montrent bien à quel point c'est la manipulation, ces émissions de télé-réalité. Et puis, forcément, après, je développe, et puis je vais passer à mon second temps de l'argumentation. Cependant, malgré cela, malgré le fait qu'elle manipule, on peut tomber d'accord que ces émissions donnent également la parole à une multitude de personnes obscures qui, sans cela, n'auraient jamais la parole publique et tout et tout. Et là, je développe, et j'arrive à ma conclusion. Pour faire balancer le lecteur dans l'adoption de la conclusion B, il y a deux petites choses qui me paraissent fort importantes, enfin une au moins, c'est que les arguments à l'appui de la position B soient plus longs, plus forts, plus argumentés, plus développés que les arguments à l'appui de la position A. Et c'est ça qui va permettre la bascule.
Alors nous, on nous dit que finalement, les trois parties, elles doivent être équivalentes. Et la difficulté pour nos élèves, c'est finalement de ne pas répéter ce qu'il y a dans la deuxième partie et dans la troisième. Parce que ceux qui essayent de faire trois parties, finalement, reprennent les mêmes
arguments. Là, il y a deux parties. Là, hein. Il y a une partie A, une partie B. Ça, c'est la conclusion.
Et eux, on leur demande trois. Ce que vous nous amenez comme conclusion, eux, ça doit être une partie plus développée, équilibrée avec les deux autres.
Mais c'est vrai que je n'ai pas réfléchi dans ce cadre-là de trois parties. Hein, j'ai réfléchi dans le cadre de la délibération. C'est-à-dire comment arriver à un avis qui soit soutenu, soutenable et qui apparaisse comme raisonnablement établi. Le modèle en trois parties, c'est le modèle dissertatif, c'est autre chose.
Je pense qu'au départ, quand on nous a dit qu'il va falloir produire un écrit délibératif, finalement, en gros, personne n'avait réfléchi à la question. Et donc, au début, on nous a dit, bon, en gros, c'est la dissert, mais on ne va pas l'appeler comme ça. Donc on avait les trois parties. Ouais. Et après, finalement, quand concrètement on a fait travailler les élèves, on s'est trouvé à chaque fois bloqué par cette troisième partie où on n'arrive pas à leur faire dire autre chose que ce qu'ils ont déjà dit.
Bien sûr.
Ce qui est logique.
Bien sûr. Parce que la troisième partie de la disserte, c'est un changement de perspective. C'est une redéfinition du sujet, grosso modo. Une bonne disserte. Hein. C'est une redéfinition, un changement d'éclairage, un changement de point de vue. On repère dans le sujet un implicite qu'on a soigneusement laissé de côté dans la partie A et B et qu'on va reprendre pour déplacer le problème. Une bonne disserte, c'est ça, c'est quelqu'un. Dans la partie, on déplace le problème, on le décentre et on regarde. On repose tout depuis le début dans un autre regard. Ce qui est sacrément compliqué. Ouais, hein. C'est sacrément une bonne disserte à faire, c'est vraiment très compliqué. Ou philosophique, ou histoire. Ou sciences économiques. En droit, c'est toujours deux parties.
Et c'est deux parties.
C'est toujours deux parties.
Ça m'a sûr.
Ah ben oui, il y a de quoi.
Ils sont délibératifs, peut-être, par nature.
Peut-être.
Avec une introduction.
Ouais. C'est un objet disciplinaire, la disserte. Hein. Selon les disciplines, ça prend des configurations différentes. Donc il n'y a pas de modèle unique. Hein. Il y a un grand genre et puis à l'intérieur, plein de... Alors ça, c'est la solution A et la solution B. Donc vous l'anticipez facilement. C'est-à-dire c'est la même chose, sauf qu'on va terminer sur la position B. Alors, je reviens un peu en arrière. Dans l'introduction, je me suis dit que pour que ce soit un peu cohérent, il faut présenter les questions dans l'ordre où elles vont apparaître dans le texte. Dans cette introduction-là, je pose d'abord la question de est-ce que c'est une manipulation ou est-ce que c'est une occasion de parole publique. Dans ma solution B, je vais inverser donc. D'accord ? Est-ce que c'est une occasion d'accéder à la parole publique ou est-ce que c'est de la simple, pure et simple manipulation ? J'inverse les questions. Puisque je vais terminer par B, et donc je veux que dans mon introduction, dès mon introduction, on ait une sorte d'orientation argumentative un petit peu. Hein. Donc voilà, donc, du coup on termine sur, c'est réellement de la manipulation. Donc, première partie, on va développer la position adverse. Hein. Ça donne parole à une multitude de personnes obscures. Puis deuxième partie, il faut bien constater que malgré tout, elles sont principalement manipulatrices, je développe et je conclue. Et mon idée à moi, c'est de donner ces deux plans-là simultanément dans la classe, en disant vous choisissez celle qui vous paraît, celle à laquelle vous adhérez le mieux en termes de conclusion argumentative. Ou, cela dit, il peut aussi y avoir des élèves qui ont envie de jouer et dire c'est pas mon opinion, mais j'ai envie de le faire quand même, pour m'entraîner, pour voir ce que c'est que de développer un discours que je ne partage pas. Il peut y avoir des élèves qui sont un peu retors comme ça et à qui ça peut plaire. De développer, c'est un jeu intellectuel, quoi, je veux dire. Ça, c'est un jeu intellectuel, c'est du mécano. Et donc, pour terminer, là, j'ai essayé de formaliser un peu ces notions de schéma délibératif. Hein. Donc, avec cette idée que... qu'est-ce que j'en ai fait une ou deux, là ? Non, j'en ai fait qu'une. Donc, on a une question, est-ce que c'est B ou est-ce que c'est A ? Donc, un premier temps, on va examiner B et on va trouver des argumentations qui vont dans le sens de B, qui vont soutenir B, qui vont étayer B. Dans un deuxième temps, on va renverser la machine, hein, c'est-à-dire qu'on va passer, on va commencer à penser à la conclusion, d'accord, et on va penser donc à présenter la position A. Là, comme je disais à l'instant, quels sont les arguments ? Et c'est vrai que la position A, elle va être... plus forte si les arguments sont plus conséquents ou si pas forcément plus longs si vous êtes contraint par des problèmes de longueur. Mais ça peut être par exemple des arguments qui sont davantage des arguments d'autorité que les arguments qui sont utilisés pour le premier temps de l'argumentation. Hein. Par exemple, vous pourriez soutenir la position B avec des arguments de journaliste et puis la position A par des arguments de chercheur. Pour faire l'autorité ne soit pas du même poids. Par contre, ce qui est intéressant, que je n'ai pas fait apparaître dans mes schémas précédents, c'est que pour argumenter dans le sens de A, il peut être aussi très intéressant de mener une argumentation contre B. Et là, ça commence à devenir un petit peu sophistiqué en termes de démarche argumentative. C'est-à-dire, pour soutenir une position, on a deux stratégies argumentatives. Trouver les arguments qui vont dans le sens de cette position, et trouver les arguments qui vont annuler la position contraire. C'est-à-dire aussi bien des arguments pour A que des arguments contre B, qui, par inférence, vont appuyer la position A. Et donc là, on a, dans cette deuxième partie, on a une possibilité de travailler avec les élèves les problèmes de réfutation, de, par exemple, plus que de concession d'ailleurs, plus de réfutation, qui sont tout à fait intéressants. Et qui permettent d'articuler justement, de ne pas être dans du oui-non, mais dans du oui-mais ou du non-mais. Et là, si vous voulez, pour moi, ce plan-là, c'est vrai que j'aurais pu ajouter, devant A, j'ajouterais un connecteur du genre mais, cependant, etc. etc. Hein? C'est-à-dire qu'on retrouve au niveau du texte le schéma de la phrase argumentative que je vous présentais avec le muguet. Là. Il est beau mais cher, donc je ne l'achète pas. Il est cher mais beau, donc je l'achète. Hein? C'est transférer ça au niveau du texte, c'est la même chose. Là, c'est A mais B, donc je choisis B. Et pour moi, c'est vraiment un schéma argumentatif qui vraiment joue au niveau de la phrase, au niveau de l'articulation des paragraphes, la formation d'un texte argumentatif qui est fortement orienté et qui est entièrement orienté par la conclusion. C'est-à-dire, on peut très bien, en termes d'exercice préparatoire ou d'exercice en décroché, si on veut faire un jour un coup de loupe sur la structure du paragraphe et montrer la différence entre un paragraphe qui s'ouvre par un exemple et qui se conclut par un argument ou l'inverse, comment ça joue, est-ce que c'est plus intéressant un cas, etc. On peut le voir dans des textes, etc. Ça peut être intéressant, faire une sorte de coup de loupe, des zooms là-dessus. Mais en termes d'aide à l'écriture, parce que moi je conçois ces choses-là comme aide à l'écriture quand même, un grand cadre qui donne aux élèves un peu une représentation des différentes étapes par lesquelles ils peuvent passer. Mais après, il faut qu'ils respirent un peu dedans. Quoi. Je veux dire, s'ils doivent chaque fois se contrôler sur ci, sur ça, c'est compliqué. L'idéal, c'est effectivement que les élèves puissent traiter le sujet sans aide. Quoi. Ouais. C'est quand même ça qu'on vise. En fait, c'est quand même ça qu'on vise, c'est-à-dire qu'ils aient suffisamment intériorisé des modes de raisonnement pour qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'on leur impose ni la conclusion, ni le début, ni le milieu, quoi. Moi, j'ai toujours perçu ça, alors, si vous voulez, c'est vrai que j'ai toujours conçu l'argumentation comme un jeu de Lego. Un jeu de Lego, on construit des trucs, on a des pièces qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre.
Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on rejoint, parce que moi, j'ai exactement la même conception. Mais quand je discute avec les élèves, ils ne croient pas ça. Ils croient véritablement que c'est juste que c'est pas un jour.
Ouais, mais, alors ça dépend peut-être du sujet qu'on leur propose. Je pense que si on les fait argumenter sur des sujets comme cela, qui touchent à leur culture, à leur conviction, c'est extrêmement difficile de faire concevoir l'argumentation comme un jeu. Parce que forcément, ils sont impliqués dans une opinion. Donc ils ne sont pas prêts du tout à vous entendre, si vous voulez, les faire argumenter dans un autre sens.
Ça, et pour... ça va à l'encontre de beaucoup de théories qui disent qu'il faut se rapprocher de séquences pour arriver à les aider.
Absolument.
Parce que si vous regardez bien les séquences, c'est bien ce qu'on vous demande. Ouais. C'est d'aller chercher des sujets et des thèmes qui sont tellement proches d'eux qu'on estime et qu'on pense sérieusement qu'on va réussir à les faire délibérer dessus.
Et on demande de partir de leur représentation pour après leur apporter un truc pour les faire buter. L'idée étant de les
amener. Je pense qu'il y a une implication.
C'est que vous avez deux objectifs différents. Vous avez un objectif discursif, langagier, construire des compétences à argumenter, et un objectif citoyen, changer les opinions des élèves. C'est deux objectifs différents.
C'est certainement plus facile de manipuler les idées qui sont en nous.
Pas forcément, je crois. Pas forcément, parce que si on est persuadé que la télé-réalité, c'est une occasion magnifique d'aller montrer sa bobine à la télé, on va peut-être avoir du mal à envisager le point de vue d'autrui, qui dit non, c'est de la manipulation. Or, dans les deux solutions que je propose, il y a forcément un passage par le point de vue qu'on ne partage pas, qui oblige l'élève à se décentrer et à sérieusement traiter un point de vue qu'ils ne partagent pas.
Cette question du sujet sur lequel on fait argumenter les élèves, c'est vrai que c'est la question compliquée. Et je trouve que si on veut effectivement les faire entrer, les faire l'apprentissage, encore une fois, je peux m'imaginer la chaîne du fou, dans cette mécanique argumentative, il vaut peut-être mieux pas prendre les grands sujets qui les préoccupent.
Vous avez par exemple monté une séquence didactique absolument dans du tonnerre de Zeus sur les fous micro. Pour des élèves de 3e de collège, quoi. On se dit, bon, c'est quand même pas leur truc. Ben, ils n'étaient plus de passion pour les faux micro-ondes. Hein. Voilà, donc, on avait essayé de trouver vraiment un truc qui était aussi éloigné que possible des questions qui peuvent intéresser, passionner les jeunes ados.
Par rapport à ça, il y a par exemple en première, par rapport aux techniques, etc., ça, ils sont concernés, mais ils sont éloignés parce qu'ils ont peu de connaissances dans. L'homme face aux avancées scientifiques et techniques. Les élèves s'intéressent, mais de très loin avec nous quand même, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des connaissances. Je pense au forum de Chrome, c'est pareil. Nous, on l'a pas non plus, les robots, les machins, les trucs, ça nous plaît, mais bon. Et en fait, c'est peut-être là où c'est plus efficace. Moi, de ce que j'ai testé depuis que j'ai des élèves, pour l'argumentation, le délibératif, ça a été pour moi la belle surprise. C'était plus efficace. On a parlé effectivement des manipulations génétiques, on a parlé d'aller vivre sur Mars, enfin, j'aurais demandé d'inventer des sujets par rapport à la question de la modernité et de l'évolution technique. Et en fait, on basculait dans quelque chose qui était irréel, mais pas si loin que ça, puisqu'on devait se baser sur des documents de recherche. Quand tu leur demandes de réfléchir là-dessus,
ça marche.
C'est ça.
Et donc, ce serait dans votre progression.
Ça, c'est en première.
Mais nous, on réfléchit sur le cursus de l'élève, mais votre progression peut-être dans la façon d'amener les écrits argumentatifs, de les enchaîner.
En même temps, quand on voit le programme, les sujets, c'est
partir de là où on voit le
programme. Il faut remonter après, il faut arriver au bout. Il faudrait donner par exemple des points, enfin des conclusions, leur dire comment on fait pour arriver à ça.
Tout à fait.
C'est-à-dire leur dire, on leur distribue à des groupes différents, deux conclusions différentes, et leur dire comment on fait pour arriver à penser ça.
De donner l'alpha et l'oméga.
Il y a rien au milieu, et ils doivent aller mettre ce qu'il faut au milieu.
Et ce qui fait que l'activité d'écriture n'intervient pas forcément à la fin d'une séquence.
Non,
elle peut être une activité en elle-même. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez la lancer quand vous voulez, si je puis dire. Voilà. C'est toujours, là, ma préoccupation, c'est toujours celle de la temporalité. En tout cas, l'écrit final qui est préconisé, je crois, parce que ça peut être préconisé, je crois. Voilà. Il y a vraiment, je pense que l'apport des IO, les analyses que va faire Bertrand, je pense que là, on va pouvoir décortiquer.